on est toujours en direct de Terre du Son Festival 2018 sur le domaine de Condé, donc à Mont, dans le 3-7, Indre-et-Loire. Et tu entends les Lehman Brothers qui devraient commencer leur concert juste derrière nous. Donc c'est sur les ondes de Radio Campus Orléans et de Radio Campus Tours. Et on l'accueille maintenant tout de suite, monsieur Romain Simoneau. Bonjour, monsieur Romain Simoneau.
Bonjour.
Gesticulateur.
Exactement.
Alors si on t'invite aujourd'hui, c'est parce que tu es passé à 13h tout à l'heure dans une conférence gesticulée, là aussi on peut le dire, des formules d'expression parallèles, propres à un festival, c'est-à-dire qu'on peut inviter des acteurs locaux, des acteurs associatifs, et en l'occurrence toi tu fais partie de l'association CCFD Terre Solidaire, et je te laisse te présenter la conférence que tu es venu animer pendant une heure et quart.
Ouais, et bien donc l'association CCFD Terre Solidaire, c'est une ONG de solidarité internationale. Dans ce cadre-là, on fait pas mal de choses, mais on fait aussi beaucoup de sensibilisation de l'opinion française sur les questions de solidarité, d'inégalité au niveau international. Et dans ce cadre-là, dans les outils de sensibilisation qu'on utilise, on passe souvent par le jeu, parce qu'on considère que le jeu est un bon vecteur de valeur et provocateur d'échanges, et puis on reste sur quelque chose de ludique, alors que en fait on essaie de parler de sujets assez forts, plus ou moins universels, en tout cas qui touchent à la vie des gens, puisqu'on à la base on est une association de lutte contre la faim.
Oui, la mise à distance permet souvent d'aborder des sujets graves, et en l'occurrence le sujet grave que tu es venu évoquer, c'est effectivement, on peut te rejoindre là-dessus, c'est sur un scandale mondial qui est, comment on peut appeler ça, l'optimisation fiscale, la délinquance financière.
Ouais, la délinquance financière en col blanc, c'est pas mal.
Moi je me souviens, il y a un an et demi à Tours, tu avais organisé un safari fiscal.
Oui, tout à fait, dans les rues de Tours.
Dans les rues de Tours, où tu as pris par la main une cinquantaine de personnes, et puis nous sommes allés voir, vous nous avez présenté sous la bannière du safari, donc un peu comme si nous étions des colons, des explorateurs qui arrivions en terre vierge, en terre inconnue, découvrir cette jungle des multinationales, des entreprises bardées de fiscalistes, de juristes qui ont pour expertise, comme domaine d'expertise, eh bien comment donc optimiser les lois fiscales, les lois autour de la taxation, et comment eux arrivent à s'implanter dans des pays riches, bien dotés en tout cas, avec un certain pouvoir de consommation, et comment eux arrivent à se gaver, tout simplement, à se gaver et à être dans une logique non pas de partage, mais de concentration financière, de concentration d'argent, et je dirais pour leur bénéfice à eux. Donc je ne sais pas si on va citer les endroits où nous sommes allés, mais c'est le thème que tu abordes peut-être plus longuement pendant cette conférence alors ?
Oui, bien sûr. On est allé visiter des entreprises multinationales, des banques aux noms bien connus, et puis aussi des cabinets d'experts juridiques qui justement façonnent ces dossiers pour permettre à des entreprises et à d'autres gros acteurs de ne pas payer l'impôt. Alors que nous, citoyens lambda, eh bien, si on ne paye pas notre impôt, ça va se savoir rapidement. Et du coup, en tant qu'association de solidarité internationale, on considère le problème de l'évasion fiscale comme central, parce que au cœur d'une mauvaise redistribution des richesses, en fait. Et c'est en ça que ça accroît les inégalités. Et nous, on a essayé de remonter aux causes des causes des inégalités aujourd'hui, notamment qui laissent près d'un milliard de personnes à ne pas pouvoir manger à leur faim. Et on se dit qu'en réglant, entre guillemets, le problème de l'évasion fiscale en bande organisée, on pourrait avoir une société, et quand je parle de société, un peu partout dans le monde, où on vit mieux, où on vit bien et on vit de son travail.
Alors effectivement, cette démarche, elle est nécessaire, parce que c'est avant tout de l'information. C'est avant tout de l'information, c'est pas que de la délation, de dire telle entreprise, telle multinationale, elle est méchante, elle nous escroque. C'est aussi, là cette démarche est très intéressante, d'expliquer de façon assez pédagogique quels sont les ressorts qu'utilisent ces entreprises. Donc est-ce que tu auras un exemple, peut-être pas en citant l'entreprise, mais en tout cas quels sont les trucs. Imagine, moi j'ai une multinationale qui vend des biscottes. Et je veux absolument
pas payer d'impôts.
Payer le moins d'impôts possible.
Ou pas du tout.
Comment est-ce que je fais ?
Eh bien, la recette que je décris dans la conférence gesticulée est assez simple puisqu'il suffit de deux ingrédients, en gros. C'est de monter une société écran, une société offshore que tu vas aller baser dans un paradis fiscal.
Mais je crois que ça n'existait plus, ça.
Ah mais si, ça existe, ça existe.
Bah pourtant, moi, lorsqu'on écoute les médias, il y a eu pas mal de préconisations, de résolutions à l'échelle européenne, à l'échelle mondiale.
Alors ça se travaille, hein. On peut d'ailleurs faire un grand coucou, un grand merci à Cahuzac, hein, qui nous a quand même aidé en France.
Un exemple pour la jeunesse.
Parce que du coup, avec le scandale Cahuzac, il y a eu quand même des réformes qui ont été faites. Les associations comme le CFD Terre Solidaire ont proposé des projets de loi pour justement mieux encadrer ces fuites, pour mieux encadrer les multinationales. Bon, en général, c'est des textes de loi qui sont pas forcément retoqués, mais en tout cas, ils sont un peu arrondis aux angles. Et au final, ça déboule sur un projet de loi qui est assez faible. En tout cas, c'est souvent le sentiment qu'on a, malgré le lobbying qu'on essaie de faire auprès des élus.
Tu veux dire que finalement, ce sont des textes de loi qui restent souples, où il y a pas mal d'interstices dans lesquels on peut glisser.
Oui, tout à fait. Mmh. Et puis, il y a de multiples sujets à aborder, hein, mais pour ce qui concerne la France, si on arrivait à faire sauter le fameux verrou de Bercy, on arriverait peut-être aussi à faire avancer les choses dans le cadre de la justice, puisque le verrou de Bercy, c'est quoi ? C'est la possibilité pour le ministre du budget de régler quasi personnellement les affaires de litiges concernant des entreprises ou des grands particuliers en France qui ont bénéficié d'avantages fiscaux à la limite de la légalité, en fait. Mais avec tous ces montages, on ne sait jamais si on est dans du purement légal. Et souvent, ces montages sont faits avec des doses plus ou moins variables d'illégal.
Alors là tu as évoqué donc deux cas particuliers, à la fois Jérôme Cahuzac, un individu qui lui, de manière individuelle, pour le coup pas trop institutionnelle, particulière, voilà, a réussi à détourner. Bon, il s'est fait gauler et on est bien content. Et après tu parlais aussi donc de l'intervention possible d'un haut fonctionnaire qui a finalement un droit de signature et de veto par rapport à des situations spécifiques. Mais moi, ce qui m'intéresserait peut-être, si tu pouvais le développer, ça serait ce que tu évoquais à propos des paradis fiscaux. C'est comment une entreprise fonctionne, justement, d'un point de vue institutionnel, d'un point de vue global. Je ne sais pas s'il y a des grandes stratégies.
Moi, ce qui m'interroge aussi, avant de te laisser répondre, c'est peut-être cette part d'illégal que tu viens de citer, parce que les entreprises, là, on leur tire à boulet rouge quand même dessus, si je me fais l'avocat du diable. Mais finalement, elles utilisent les textes qui sont mis en place et c'est pas elles qui les mettent en place.
Oui, c'est du coup une question de morale politique qui se pose là. C'est,
Alors moi, oui, ça m'interroge.
Oui, c'est,
quoi.
Oui, c'est légal, mais est-ce qu'il faut le faire ?
Et c'est pas éthique, quoi.
C'est pas éthique du tout. C'est ce qui accentue les inégalités et une mauvaise redistribution des richesses, puisque en gros, les entreprises qui pratiquent l'évasion fiscale font en sorte de développer tout un tas de profit, ils font de l'argent à partir d'argent, en fait.
Et est-ce que l'évasion fiscale, c'est éthique déjà dans le principe ?
Bah, c'est fuir des règles auxquelles on est tous contraints et c'est les plus riches qui vont pouvoir les enfreindre les plus facilement. Sauf que les plus riches utilisent les routes, elles utilisent les hôpitaux, elles utilisent les écoles de notre pays, mais elles ne participent pas via l'impôt à contribuer à tout ça. Et quand ils disent, ben, si vous nous faites payer l'impôt, on ira migrer en Belgique, en Russie ou ailleurs, ben c'est le summum de l'absurde, en fait.
Elle faut une pression, quoi.
Il faut leur mettre la pression et nos politiques aujourd'hui, ceux qui ne parlent pas dans leur programme politique de la question de l'évasion fiscale, on peut considérer qu'ils seraient plus ou moins complices de cet état de fait, en fait, de cette chape de plomb qui fait qu'on va entendre parler 10 fois plus de la fraude sociale. Donc, ce qu'on appelle la fraude sociale en général, c'est la fraude à la CAF, la fraude au RSA.
Au Pôle emploi,
voilà. Ce genre de dispositif. La fraude pauvre des gens pauvres. Et elle nous coûte, il y a des gens qui ont mesuré ça, elle nous coûte environ 7 euros par mois par contribuable français, cette fraude-là. La fraude fiscale des entreprises multinationales, elle représente... Ça nous coûte à chaque contribuable français l'équivalent de 136 euros par mois.
C'est quoi ? C'est un manque à gagner ?
Par
ou un
mois.
Coût réel ?
C'est un coût que nous payons en plus, puisque l'État se débrouille toujours pour avoir les finances qu'il avait décidé d'avoir. Donc du coup, si c'est pas Pierre qui paye, c'est Paul qui paye. Et Paul, c'est nous. c'est les pauvres, c'est les classes populaires, c'est les classes moyennes, c'est ceux qui payent l'impôt plein pot. Il faut rappeler quand même que la TVA contribue pour moitié au budget de l'État français.
Oui, bien sûr.
Que tout le monde
paye
la TVA.
Premier impôt indirect. Hein.
Alors que c'est l'impôt peut-être le plus injuste qui existe.
Alors, il y a un argument qu'on entend souvent par rapport aux multinationales qui se font attraper la main dans le sac. En étonnement, justement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est légal.
C'est ça. En fait, il faut aller chercher dans les interstices de la légalité. Et c'est pas toujours facile de remonter. En fait, c'est comme si vous disposiez d'ordinateurs pourris en Afrique, alors que vous êtes en Europe avec des super machines. Donc les méchants iront toujours plus vite que vous. Et en plus, en France, on s'est aperçu qu'on a baissé le nombre de fonctionnaires chargés de la répression fiscale. Alors qu'on sait très bien que chacun d'entre eux, s'il fait bien son boulot, il peut faire rapporter plusieurs dizaines ou de millions à l'État français chaque année. Donc tout ça, ce sont des choix politiques. Et en ce qui concerne le légal et le pas légal, c'est immoral, donc il faut revoir les textes. Une bonne partie des règles fiscales qui ont été établies datent d'il y a un siècle ou plus. Et dans le 21e siècle, dans le siècle du numérique, il faut aussi absolument changer tout ça. Et puis il faut essayer de balancer une espèce de police internationale fiscale, parce que c'est un combat planétaire à mener, puisqu'il y a une espèce de mise en concurrence des États qui vont essayer de descendre chacun leur impôt sur les sociétés, parce qu'on dit que c'est comme ça qu'on attire les investisseurs étrangers.
Ce que tu veux dire, c'est qu'il y a des économies nationales, gouvernementales, certaines vont aller sur le tourisme, d'autres vont aller sur le paradis fiscal. Alors là, sur les paradis fiscaux, donc les optimisations fiscales et toutes les règles juridiques possibles pour finalement détourner de l'argent avec tous les choses associées, les banques et compagnie. Donc là, on vient de faire l'état des lieux, que je pense qu'on ne découvre pas la Lune, hein, on le sait que ça existe. Alors toi, au sein de CDT Terre Solidaire, quelles sont vos actions qu'on a vues j'ai parlé du safari fiscal, qui sont des choses plutôt ponctuelles, je ne sais pas si tu en as fait d'autres ou si tu comptes en faire d'autres. Et puis les conférences gesticulées. Donc tu en as fait une aujourd'hui, est-ce que tu en fais souvent, est-ce qu'il y en a à venir?
Alors, je suis pas venu avec mon programme, mais on est en train de se dire à la fin de ce festival qu'on a rencontré beaucoup de gens qui auraient aimé la voir ou qui souhaiteraient la voir ou la montrer à des gens sur Tours. Donc on fera peut-être une date sur Tours à la rentrée septembre, octobre, mais je maîtrise pas vraiment ça. Après, elle est produite dans le cadre de nos activités associatives. De sensibilisation du public sur les questions d'injustice et d'inégalité au niveau international. Moi j'ai développé cette conférence gesticulée parce que le thème me paraissait tellement important vu qu'il concerne des centaines de milliards, des milliards de milliards qui sont mal redistribués. On en a le vertige. En France, on le voit bien depuis quelques dizaines d'années, on entaille les services publics en disant que ça marche pas suffisamment bien, mais il suffit de donner la rage à un animal pour l'abattre, quoi. Du coup, la conférence gesticulée, je l'ai créée parce que à l'époque, donc 2010-2011, il y avait un élan sur le renouvellement de pratiques d'éducation populaire, justement pour aller rejoindre les publics qui ne viennent plus dans les salles, qui ne viennent plus voir les conférences. Et puis souvent, les conférences, c'est chiant. Et c'est pour ça que la conférence gesticulée, c'est intéressant, c'est de mêler un petit peu de théâtre, de mêler un peu d'histoire personnelle, d'incarner un peu la conférence. Alors qu'en général, le conférencier est plutôt froid.
Il y a le PowerPoint qui est derrière, il est assis.
Voilà, c'est ça.
C'est une conférence gonzo.
C'est ça, ça bouge pas trop, quoi.
Tu te mets en scène.
Du coup, là, l'idée, c'est de provoquer une conférence où on va essayer de prendre les gens par les émotions. Là, j'utilise un peu l'ironie, le sarcasme pour dire aux gens, mais si vous venez à cette conférence et vous n'êtes pas encore des millionnaires, ça veut dire que vous payez encore votre impôt. Ça, c'est un truc has-been de payer son impôt aujourd'hui en France. Donc, j'essaie de provoquer un peu le public comme ça, et j'essaie de lui rendre le goût de la banane amère, puisque j'essaie de prendre un exemple précis, spécifique, donc un scandale de multinationale de la banane, qui est le fruit le plus mangé au monde. Donc, c'est un commerce, c'est pas n'importe quoi quand même. Et la banane, c'est un fruit très sérieux, donc j'essaie de le mettre en scène de manière la plus sérieuse qui soit.
Donc tu parles de ce produit de consommation quotidien pour finalement développer et aller sur tous les systèmes de spéculation
Voilà, c'est ça. Je prends un produit que tout le monde connaît puisque c'est le fruit le plus mangé en termes de kilos par personne en France. Hein, j'ai bien étudié le sujet. Je me suis rendu au cœur des bananeraies dans plusieurs pays du monde pour essayer de bien comprendre tout ce qui se passe. Donc je vous avoue, j'ai une expertise de dingue maintenant. Mais plus sérieusement, je suis pas un économiste acharné, j'y comprends pas grand-chose, mais ce que j'ai lu dans les bouquins, y a des super vidéos aussi maintenant, il y a des chouettes bandes dessinées aussi qui s'écrivent sur ce thème-là, ça permet vraiment de vulgariser le sujet, parce que souvent on dit oui, mais ça se passe dans les îles loin d'ici, c'est un peu tropical, ça ne nous concerne pas vraiment. Or, dans la conférence, je montre qu'il y a toute une ceinture de paradis fiscaux qui encercle l'Europe, et c'est un peu notre terrain de jeu. Et on ne peut pas nier l'évidence que c'est juste à côté de chez nous, en fait. Et d'essayer de le rapprocher des quotidiens aux gens en leur disant que ça leur coûte toutes ces affaires-là, le fait de ne pas optimiser eux-mêmes leur argent, et bien que ça leur coûte 136 euros. Alors soit ils font comme les riches, soit ils défendent le bout de grain et ils vont manifester, ils vont faire la grève, etc., etc. Mais rester entre les deux, une position de ne rien faire, ce qu'on fait à peu près tous, eh bien c'est pas la bonne position à avoir.
C'est vrai que c'est justement donc c'est partir du produit de consommation, la banane. Je pense qu'on pourrait faire aussi la même chose autour du blé à l'échelle locale. Pour finir, en tout cas, peut-être que tu as d'autres choses à faire, mais bon, on a le temps. Moi, j'aimerais que tu nous fasses peut-être une petite géographie, là, pour le coup, de faire un nation naming dropping, de nous dire, tu parles d'une ceinture de paradis fiscaux en Europe, et puis voilà, nous donner quelques noms, quoi, de pays où il ne s'agit pas de balancer, mais en tout cas d'informer, quoi.
Alors souvent, je prends un exemple dans ma conférence, je pose au public la question suivante: quel est le premier exportateur mondial de bananes en Europe?
Le Luxembourg?
Ah, pas loin. Non, c'est l'île de Jersey qui est coincée dans la Manche, dont tout le monde sait que les bananes y poussent.
Beaucoup de bananes.
Climat idéal.
Voilà, le climat est peu propice à ça. Hein. Tout le monde sait que la Manche en fait plutôt pousser des patates sur l'île de Jersey. Mais
ou de la mousse.
L'évasion fiscale des multinationales distord tellement l'économie mondiale que quand on lit les registres, eh bien, les trois premières multinationales qui se partagent les trois quarts du marché mondial de la banane, leur siège social est implanté sur l'île de Jersey, qui permet de faire de sérieuses économies quand on veut implanter un siège social quelque part. Donc du coup, si on lit littéralement l'économie, eh bien, on apprend ça. On apprend que c'est l'île de Jersey qui fournit en banane toute l'Europe. Ce sentiment de fausseté économique qui est là, quoi.
Donc l'île de Jersey, le Luxembourg, Andorre.
Andorre, oui, effectivement, mais on peut citer aussi des endroits comme la Hollande. On ne sait pas trop, mais la Hollande, sur certains services d'entreprise, il n'y a aucune taxe qui est prise. Donc du coup, en gros, l'entreprise, elle va saucissonner ses activités, elle va les ranger dans des services, et chaque service va aller dans un paradis fiscal qui, lui, est spécialisé dans ce domaine-là. Donc ça va être sur les royalties, ça va être sur l'assurance, sur l'image de marque de l'entreprise, sur l'entreprise de transport, etc. On va tout saucissonner, on balance tout ça.
Quoi.
On optimise, effectivement. Et quand on a un langage soutenu, on dit optimiser.
Bah, voilà. Ce qui est triste à voir, c'est qu'on le voit même partout. On voit chez les assureurs, devant les banques, hein, par chez nous, on voit optimisation fiscale. Donc finalement, c'est quelque chose que tu considères et que nous considérons comme immoral presque, en tout cas injuste, et qui rentre dans les mœurs, dans une forme de quotidienneté, de normalité.
Oui, tout à fait, ouais.
Grâce au cadre légal, en fait.
Et puis maintenant, les derniers articles qui paraissent sur le thème montrent qu'il y a de plus en plus une propension des entreprises de taille moyenne à s'engouffrer dans la brèche de faire des économies fiscales. Alors ça veut dire que quelque part le système il va pas bien du tout, mais de là à emprunter les voies plus ou moins illégales, de faire comme les gros, parce qu'en gros on va prendre un exemple, hein, on va citer une grosse entreprise du bâtiment en France, hein, je vous laisse deviner le nom.
De l'autre côté
un entrepreneur qui a lancé sa boîte de bâtiment. Et bien dans la concurrence des devis qui seront menés, ça sera toujours le gros qui pourra jeter le dernier devis le plus intéressant sur la table, parce que les économies qu'il va faire là en proposant un devis moins cher, il va récupérer cet argent là ailleurs dans les paradis fiscaux, alors que l'entreprise familiale de bâtiment qui est gérée de manière très normale, on va dire, elle ne pourra jamais décrocher ce contrat, quoi. Du coup, c'est de la concurrence libre et faussée, en fait. Hein, faut arrêter le délire.
Les petits contre les gros, toujours.
C'est ça.
Et ouais, petite question, si toi, à l'issue de la conférence, là, quelle solution tu vois se dessiner ? Qu'est-ce qui serait à préconiser si on réutilise le langage, la nouvelle langue un peu là ?
Alors du coup, ouais, c'est ça, c'est le principe des conférences gesticulées, effectivement, c'est de proposer quelque chose sous forme un peu de spectacle et ensuite, en général, de proposer un atelier. Bon, là, il n'y avait pas forcément le timing. Mais ce que je dis aux gens, en général, dans la conférence, quand je n'ai pas le temps de faire cet atelier, c'est de dire, vous pouvez agir au niveau individuel. Vous pouvez mettre votre argent ailleurs. J'ai fait lever la main à tous les gens qui nous écoutaient sur dans quelle banque êtes-vous. J'ai cité la plupart des grosses banques françaises qui sont qui ont des filiales dans les paradis fiscaux. Je leur ai dit, bah voilà, le premier travail que vous pouvez faire, c'est déjà interroger votre conseiller en banque, lui demander pourquoi sa banque a autant de filiales dans les paradis fiscaux et que vous remettrez l'argent dans cette banque-là une fois qu'ils vous auront donné des explications qui vous semblent convaincantes. Deuxième chose sur la consommation. Eh bien, tout simplement, je pense qu'il faut en appeler très clairement au boycott de ces entreprises-là. Donc, c'est compliqué. Hein. Dedans, il y a Google, il y a Facebook, il y a des entreprises qui font partie de notre quotidien. Il y a les grands qui ont racheté la presse française et qui aussi vendent de l'armement, qui sont assez bien classés au niveau international. Mm-hmm. Ben, voilà, c'est tout ça qu'il faut essayer de bousculer. Quoi.
Et moi, je ne pourrais pas m'arrêter de manger des bananes.
Ah, ben ça.
Moi, je ne pourrais pas arrêter de lire des quotidiens.
Des quotidiens indépendants, si, il y en aura plein. Mais voilà, il y a cette histoire de boycott de certains produits. Hein. On l'a fait pour libérer l'Afrique du Sud du joug de l'apartheid. Il faut qu'on continue à le faire pour libérer la Palestine du joug colonialiste en Israël. Et pour se défaire de la haute finance et de la criminalité financière en col blanc, il faut aussi faire pareil. Il faut adopter des solutions assez radicales, je pense, car le danger est imminent. Ouais. Et à titre, du coup, ça c'est à titre individuel, on peut faire tout ça.
Voilà, j'ai les. Ouais.
Et à titre collectif,
institutionnel, oui.
Je ne vois qu'une seule chose qui est multiple, c'est de s'engager collectivement. Voilà, de s'engager dans des collectifs, dans des associations, dans des syndicats. Je cite dans ma conférence, j'ai articulé la plateforme française de lutte contre l'évasion fiscale, qui est tenue par des ONG, des syndicats et divers petits autres organismes. Eh bien, il faut regarder tous ces logos-là et voilà, si vous êtes syndiqué à la CFDT, à la CGT, eh bien, vous saurez qu'il y a un gros chapitre sur l'évasion fiscale. Et dans nos associations, les associations de solidarité internationale, on recherche des bénévoles. Allô, allô, la planète Tourangelle, je suis le CCFD Terre Solidaire, je recherche des bénévoles. On cherche à recruter pour continuer à faire vivre l'association et à développer ces thématiques-là. Et au niveau collectif, je pense que c'est ça qu'il faut faire en fait.
Ouais, d'autant plus que là, on voit des nouveaux collectifs pousser un peu partout. On n'a pas parlé de ça, mais des monnaies locales hein, qui fleurissent partout en France et qui sont en réaction aussi de cette frustration, de cette optimisation fiscale et cette justice à deux vitesses pour certaines choses. On parlait de Cahuzac tout à l'heure. Là, on s'aperçoit que Cahuzac, il est en Guyane, il exerce la médecine tranquillement sur son île. Tout va bien. Hein. Donc, en parlant de justice, on peut être un peu frustré aussi à ce niveau-là.
Il fait ses tiges.
Ouais, il fait ses tiges tranquillement.
Ça, en tant que médecin.
Très bon intérêt généraux en Guyane.
Il va s'auto-flageller pour qu'on lui donne un pardon. Quoi.
Enfin, ouais, c'est ça.
Et c'est vrai que du coup, entre l'individuel et le collectif, il y a aussi le professionnel. Et on peut aussi tendre une oreille plus particulière à tout ce qui tourne autour de l'économie sociale et solidaire, des nouveaux modèles de développement économique, l'histoire du revenu de base, du revenu pour tous, du revenu universel. C'est quand même des outils intéressants parce qu'on est quand même au 21e siècle, on nous a promis la Lune et on l'a toujours pas, on bosse toujours comme des chiens et dans les pays du Sud, c'est encore pire.
Donc pour faire bouger les choses, excuse-moi, dernière chose, c'est qu'il faut arrêter de se voiler la face, se réapproprier un peu le pouvoir avec les moyens dont on dispose et s'engager collectivement, essayer de aussi insuffler du lien dans des organisations et de commencer à réfléchir ensemble pour agir ensemble plutôt que de laisser faire et en fait d'être condamné à cette posture d'inertie qui fait que en fait, les mécanismes et tout ce que tu expliquais, tout ce que tu dénonces dans ta conférence gesticulée reste en place. En fait. Il faut s'organiser contre ça.
Tout à fait. Milite, prouve que tu existes.
Allez.
Merci Romain.
Merci à vous.
On a beaucoup appris et puis surtout, on se rend bien compte que gesticuler, ce n'est pas brasser de l'air, c'est aussi informer, informer sur des choses importantes qui nous concernent tous.
Donc... Merci à vous et gardez la banane.
Et bravo à CCFD Terre Solidaire.
Alors, est-ce qu'il y a un prochain rendez-vous, juste ?
Prochain rendez-vous sur les réseaux sociaux, vous nous surveillez et on va sortir de notre chapeau des super trucs.
Allez,
bon été à tout le monde.